sur les rapports Murphy revisités par la psychanalyse aujourd'hui, de la tragédie au mélodrame avec l'helléniste Françoise Frontisi et David Alperine.
L'importance du rapport Murphy comme rapport fondateur. On peut se demander si, dès l'origine en Occident, ce problème n'a pas été quelque peu escamoté. Françoise Frontisi, vous êtes helléniste, vous avez publié Du masque au visage, aspect de l'identité grecque, et avec Jean-Pierre Vernant, Dans l'œil du miroir. On pourrait commencer par faire en quelque sorte un état des lieux sur les rapports Murphy dans l'Antiquité.
Ce sera un état des lieux purement imaginaire, bien entendu, parce que sur la réalité des relations entre femmes, on n'a aucune documentation. Vous le savez sans doute, la société grecque était partagée. Il y avait un monde des femmes et un monde des hommes. La cité est une cité masculine, virile, on dit même phallocentriste, qui vit à l'extérieur, qui gère la politique, et les femmes sont à la maison. Elles ne sont pas enfermées. Elles peuvent sortir, même se fréquenter entre amis, entre voisines. Dans la maison, elles vivent à part, elles ont leur appartement, qu'on a appelé le gynécée, mais ça c'est un nom qui date du 19e siècle, et elles vivent entre elles, mais on n'a aucun témoignage sur ce qui se passait chez les femmes, puisque tous les témoignages nous sont donnés par les hommes. C'est-à-dire que les hommes présentent des modèles de ce que doit être la vie des femmes, et puis ils fantasment horriblement sur ce que sont les femmes. Donc sur les relations mère-fille, on n'a rien.
Néanmoins, on a de la mythologie.
On a
du théâtre.
Pour les femmes, et plus précisément pour les relations mère-fille, on peut choisir deux types de textes, enfin il y en a deux qui s'imposent. D'une part, l'hymne homérique à Déméter, qui évoque les relations de Déméter et de Corée, qui sont des relations très positives. Puis d'autre part, il y a la tragédie. La tragédie, qui est une institution purement masculine, puisque ce sont les hommes qui jouaient et qui probablement étaient les seuls spectateurs, et qui met en scène de façon extraordinaire les femmes. Les femmes sont abandonnées alors qu'elles sont tout à fait exclues de la vie politique, et que la tragédie a un aspect politique, les femmes sont partout présentes. Ce sont des héroïnes de tragédie. Mais ce sont des héroïnes fantasmatiques, des monstres. Et pour les relations mère-fille, le modèle, c'est essentiellement Clytemnestre et Électre, dont il nous reste, à propos desquels il nous reste trois tragédies des trois grands tragiques. Donc, le grand amour Déméter et la grande haine Clytemnestre. Absolument. L'hymne homérique à Déméter relate la fondation des mystères d'Eleusis, et à ce propos, il raconte l'enlèvement de Corée, la fille de Déméter, qui est à l'origine justement de cette fondation. On va avoir des passages absolument superbes sur le grand malheur de Déméter, sur la douleur de la séparation. La douleur de la séparation entre la mère et la fille. Séparation qui est voulue par les hommes, par les mâles. Cela se passe chez les dieux, au niveau des dieux. Déméter est la sœur de Zeus. Zeus a décidé de la donner en mariage à leur autre frère qui est Hadès, qui est la divinité des enfers. Et il fait cela sans, bien entendu, le consentement de la mère. On pourrait penser qu'il y a un reflet de la réalité sociale dans cette situation, puisque de fait, les enfants appartenaient au père, la fille appartient au père, et la fille sert de monnaie d'échange. Le mariage sert à cela, à faire des alliances entre familles. Donc on peut imaginer, mais on ne peut que reconstruire la réalité des sentiments entre ce qui se passait au moment où la fille partait, vers 15-16 ans peut-être, de ce foyer très très fermé, de ce monde des femmes qui était celui de sa famille, pour arriver dans une autre famille, puisque les mariés résidaient toujours chez le mari, où elle retrouvait un autre milieu féminin, bien entendu, dirigé par sa belle-mère. Et on ne peut qu'imaginer qu'il y avait un arrachement épouvantable.
Reine Déméter, maîtresse des saisons, douce bienfaitrice, qui, parmi les dieux du ciel ou les hommes qui meurent, a enlevé Perséphone et t'a brisé le cœur. J'ai entendu la voix, mais de mes yeux, je n'ai pas vu qui c'était.
Soleil, traite-moi avec respect. Je suis déesse. Si jamais d'un mot, d'un geste, j'ai fait du bien à ton cœur ou à ton âme. La fille que j'ai enfantée, douce, fleur si belle, je l'ai entendue pousser des cris à travers l'air infertile, comme si on lui faisait violence. Mais je n'ai rien vu de mes yeux. Mais toi, car tu regardes avec tes rayons du haut de la divine lumière tout ce qui a lieu sur la terre et jusqu'au fond de la mer. Dis-moi de manière certaine, cet enfant, si tu l'as vu. Qui, alors que j'étais loin par la contrainte, malgré elle, qui me l'a prise? Qui des dieux ou des hommes qui meurent?
Il y a cette douleur terrifiante, Déméter qui erre en cherchant Perséphone.
Quelle part? Bon, on dit d'abord que c'est Corée. Hein. Attention, c'est Corée qui est enlevée. C'est son nom, ça signifie la jeune fille. Elle ne devient Perséphone que lorsqu'elle a épousé Hadès. Il y a un changement de nom. Qui correspond à son changement de statut. Changement de résidence. Mais elle s'appelle Corée, elle est la jeune fille, et elle est l'image d'un nom générique. C'est un nom générique et c'est à la fois son nom. Le couple Déméter et Corée, le couple mère-fille, c'est ce qu'on appelle les deux déesses ou les grandes déesses, est honoré dans d'autres endroits qu'à Eleusis. En Arcadie, par exemple, il y a un culte de la maîtresse et de sa fille, ou des deux déesses. La jeune fille, il y a la mère et la jeune fille. La jeune fille, c'est Corée, la jeune fille non mariée. Corée, ça désigne aussi la prunelle de l'œil, hein, donc cette jeune fille qui est précieuse comme la prunelle des yeux. La prunelle des yeux. Et que la mère doit quitter. Et la douleur de Déméter. Le chagrin de Corée aussi est épouvantable. Elle le dit immédiatement, elle est horrifiée. Elle est désemparée d'être arrachée à sa mère. Et il y a dans le texte un très bel écho immédiat entre le chagrin de la fille, son épouvante, et puis le cri qu'elle pousse dans l'univers que personne n'entend sauf sa mère. Sa mère l'entend. Il y a vraiment là un écho immédiat de souffrance,
une amputation.
Une amputation, mais qui est ressentie par les deux vraiment en miroir. Et ce qui se passe est horrible, elle part comme une folle, vraiment, Déméter. Elle parcourt toute la Terre à la recherche de la vie. Seulement cette douleur-là prend une dimension cosmique, puisqu'il s'agit de Déméter, qui est une très grande déesse et qui en particulier gère l'agriculture, les productions céréalières. Alors, lorsqu'elle voit qu'elle ne retrouve pas sa fille, elle décide des représailles et elle affame la Terre entière, jusqu'à ce que Zeus soit obligé de céder et d'accepter une transaction.
La fille pourra
revenir. Donc,
à certaines saisons,
on découvre qu'elle est mariée. Enfin, elle a été enlevée par Hadès, donc le souverain des enfers, le dieu des morts. Et malheureusement, elle a mangé un pépin de grenade, c'est-à-dire qu'elle a pris de la nourriture. Hadès, bien entendu, a fait cette ruse. Au moment de partir, Corée était tellement contente d'apprendre qu'elle allait retrouver sa mère qu'elle ne s'est pas méfiée, elle a accepté un pépin de grenade, le minimum de nourriture qui marquait une alliance, une acceptation de cette union. À partir de ce moment-là, elle était liée à Hadès et liée au monde des morts. Donc elle est devenue l'épouse d'Hadès sous le nom de Perséphone et la souveraine des morts. Mais elle revient passer sur Terre ou les deux tiers du temps ou la moitié du temps, c'est-à-dire qu'elle remonte au printemps. Elle remonte au printemps avec les plantes, avec les céréales, avec la végétation. Mais elle est obligée de passer l'hiver auprès de son époux dans ce monde lugubre qui est celui des morts.
Ce qui est très beau puisque, au fond, elle est là pour la floraison maternelle.
Absolument. Pour la floraison, qui est aussi celle de la jeune fille, puisque au début de l'hymne à Déméter, ça se passe dans une prairie fleurie, et c'est au moment où elle cueillait des fleurs avec ses compagnes que le sol s'entrouvre, une fissure, et que Hadès jaillit de cette faille du sol et l'emporte sur son char. Mais ça se passe au milieu des fleurs. Et quand on voit ce qu'est la floraison en Grèce au printemps, on comprend, parce qu'il y a vraiment une végétation tout à fait particulière et exceptionnelle. Et en particulier, pour faciliter l'enlèvement, les dieux ont fait jaillir le narcisse. il y a une relation très très importante entre le narcisse et Corée et la jeune fille. Le narcisse qui deviendra la fleur du narcisse, qui sera mis en relation avec la question du miroir, avec la question du miroir qui est spécifique aux femmes. Donc elle est tentée par le narcisse, qui est une fleur tout à fait nouvelle. Le poème parle d'un jouet, donc elle va le saisir le narcisse, saisir quelque chose qui est un peu son double, elle-même, la jeune fille. N'oubliez pas que c'est la prunelle des yeux aussi, que la prunelle est un miroir. C'est à ce moment-là que tout s'ouvre et qu'elle disparaît dans ce gouffre qu'est l'enfer et qu'est le mariage aussi pour la fille, puisque le mariage correspond à une étape de la vie et que chaque étape de l'initiation est pensée aussi comme une mort et une renaissance. Il y a tout ça dans cette histoire. De mon point de vue, ce que présentent les Orestis, le mythe, le thème de l'Orestie et la figure d'Électre et sa relation avec Clytemnestre, c'est une monstruosité, mais qui est vraiment vue du point de vue masculin, uniquement. Même s'il y a une haine entre mère-fille, on n'en a aucun témoignage féminin, voilà ce que c'est ce que je veux dire. Alors, Françoise Frondizi, les trois grands tragiques grecs, Sophocle, Échille et Euripide, dans le désordre, en ont parlé. Ils ont traité de fond cette histoire d'Électre. On peut quand même rappeler très rapidement que Électre est la sœur d'Iphigénie, c'est-à-dire d'une fille sacrifiée.
Oui,
absolument, et Maria. Et c'est l'argument de Clytemnestre, un des arguments de Clytemnestre pour avoir tué Agamemnon. C'est pour venger le meurtre de sa fille. Et elle a de très très belles paroles à l'égard de cette fille sacrifiée. Elle forme avec Iphigénie morte un couple idéal, mère-fille, précisément, mais qui est séparé par la mort et peut-être qui est construit par la mort, justement. Là encore, cette image de la séparation. Et il y a d'autres. Électre accuse sa mère également de concupiscence, de débauche, d'un excès de sexualité. Et elle dit que si elle a tué son époux Agamemnon, c'est autant par amour pour Égiste que par regret de sa fille. Mais il y a effectivement cette figure d'Iphigénie qui est partout présente, en creux, absente. C'est assez intéressant parce que là, on a la haine de la fille pour la jouissance de la mère, en quelque sorte. L'Électre la pire, la plus tragique, la plus mauvaise, c'est celle de Sophocle, elle est extraordinaire. Et Électre est l'héroïne de la pièce. Alors que chez Échille, elle n'est pas l'héroïne de la pièce. Et chez Échille, d'ailleurs, dans les coéphores, le titre de la pièce est toujours indicatif. Les coéphores, ce sont les porteuses de libation, c'est le cœur qui tient la première place. Dans les coéphores d'Échille, c'est en réalité Agamemnon le tombeau d'Agamemnon qui tient la première place. Et dans Euripide, c'est Oreste. Dans Euripide, c'est Oreste. Exactement. En fait, d'ailleurs, dans les coéphores d'Échille, il n'est pas de face à face entre Clytemnestre et Électre, vous l'avez remarqué. Électre fait couple avec son père, d'une part, et avec son frère. Et Clytemnestre, elle, ne parle pas du tout d'Électre. Mais il n'y a pas ce face-à-face. D'ailleurs, chez Échille, Clytemnestre est plus humaine, elle est plus sensible, elle se trouble, elle a même une présentation modeste, mais elle se trouble en apprenant la mort d'Oreste, la fausse mort d'Oreste. Chez Échille, Électre reste digne, elle ne participe pas au meurtre. Elle reste intacte. Contradictoire. La femme est porteuse de tous les excès et des excès opposés, sans souci justement de la contradiction. Elle est à la fois trop attachée à ses enfants et puis pas assez attachée à ses enfants. Et ça bascule d'un extrême à l'autre. Et dans la pièce de Sophocle, Clytemnestre aime et pleure Iphigénie à l'excès. Donc il y a une fille qu'elle aime trop, de façon excessive du point de vue grec. Et d'autre part, elle est présentée comme voulant éliminer Oreste. Donc elle aime trop sa fille.
Ah, c'est son fils.
Ça, c'est son fils. Il y a pourtant une ambivalence, une ambiguïté. Lorsqu'elle apprend encore la mort de son fils, elle se trouble et elle dit que c'est étrange. Mais enfin, il y a vraiment ce fantasme de la mère infanticide du fils. Et puis à côté de cela, Electre, elle aussi, c'est l'excès du deuil. L'excès du deuil de son père.
Oui, elle tue au nom d'Agamemnon.
Au nom d'Agamemnon. Donc la mère, Clytemnestre, représente l'amour excessif pour Iphigénie, pour la fille, et la fille Electre, c'est l'amour excessif pour son père mort. Elle représente deux aspects excessifs du deuil. Puis Electre, c'est aussi le désir de mort. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Sophocle, c'est qu'elles se ressemblent toutes les deux, et que Electre le dit d'ailleurs à un moment donné. Ce sont deux femmes viriles, donc deux contre-femmes, deux femmes monstrueuses, deux femmes qui ont inversé les rôles traditionnels. Du masculin et du féminin. L'homme doit commander et la femme doit obéir.
Et d'ailleurs, Égiste et Orestes sont présentés plus ou moins comme des hommes châtrés, au fond.
Oui, ils sont faibles, bien entendu.
Faibles.
Surtout Égiste. Surtout Égiste, puisque c'est Clytemnestre qui a tué son époux, qui l'a fait tuer, et c'est elle qui a usurpé le pouvoir. C'est elle qui règne. Elle règne dans la lignée de son époux, la lignée des Atrides, qui n'est pas sa lignée. Et Electre, parallèlement, rêve de tuer comme un homme, elle le dit, elle voudrait réaliser un exploit héroïque. Elle voudrait être un homme. Elle est vraiment farouche et dure à l'excès. C'est la figure la plus étonnante, c'est vraiment celle de Sophocle. Et puis, elle le dit, elle reconnaît, lorsque Clytemnestre lui fait des reproches, elle reconnaît qu'elle ressemble à sa mère. Elle lui répond, par exemple, « Va, crie et hurle partout que je suis une ingrate, une furie et une démente. » Dans ce cas, il faut croire après tout que j'ai de qui tenir. La seule différence, c'est que Clytemnestre, selon Electre, a en plus la sensualité. Une sensualité excessive qui lui fait sacrifier tout le reste. Alors que Electre, elle est la fille Alectron, sans. Elle refuse au contraire toute sexualité, par opposition.
On observe de vierge frigide.
C'est ça. Elle est aussi interdite de maternité par sa mère et à la fois volontairement. En tout cas, dans la pièce de Sophocle, l'affrontement terrifiant entre mère et fille inverse totalement la complicité intime que les Grecs attribuent à ce qu'ils appellent la race des femmes.
C'en est même très exactement l'inverse, d'une certaine manière.
Ah, tout à fait l'inverse. Electre, puisque le problème, c'est celui du sang, du sang de la famille, du sang versé, du sang qu'il faut réparer, qu'il faut verser à nouveau. C'est une espèce de vampire, c'est une fille vampire. Par rapport à cette figure d'une rigidité effroyable qu'est l'Électre de Sophocle, l'Électre de Ripide est assez paradoxale, assez déconcertante. La fille est plus monstrueuse que la mère, et la mère est plus touchante. Donc il y a une espèce de distanciation, d'écart. Elle dit que je meurs pourvu que j'égorge ma mère. Tanaimi metros aim epis faxas emes. Il y a le mot du... Que je meurs pourvu que je... Aima epis fax, il y a le mot de l'égorgement et le mot du sang. Elle veut vraiment verser. C'est une Électre absolument monstrueuse. C'est la haine absolue. C'est le désir de meurtre, l'Électre de Ripide. Du meurtre qu'elle exécute. Elle exécute comme co-meurtrière. Chez Euripide, elle est co-matricide. Elle encourage Oreste, qui est assez faible. Ils sont, lorsqu'ils ressortent, ils sont tous les deux souillés du sang maternel. Et chez Euripide, c'est Électre qui est l'auteur de la ruse. Elle manigance un piège pour attirer sa mère chez elle. La pièce de Ripide est assez bizarre puisque, vous savez, Electre est mariée, elle est mariée à un pauvre paysan, à un laboureur, elle est mariée sans être mariée parce que son époux a respecté, bien entendu, la princesse, la fille de ses rois, et elle fait semblant d'avoir accouché, et donc sa ruse, elle appelle sa mère pour qu'elle vienne accomplir les cérémonies d'usage après un accouchement. Clytemnestre tombe dans le piège. Elle est sensible à ses devoirs. Il y a vraiment un contraste. Elle est presque touchante. À la fin, Clytemnestre finit par être touchée par les arguments de sa fille. Et elle est prête à lui pardonner. Elle lui dit qu'elle éprouve du remords. Je veux te pardonner, ma fille, car je n'ai pas tant lieu de me réjouir de ma conduite. Sugnosomai soi, c'est le mot du pardon, sugnosomai. Kaigar uk otos agan kairoti technon tois dedramenoi semoi. Je ne me réjouis pas, mon enfant, de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est très très émouvant. Et c'est il y a vraiment un écart qui s'est creusé entre ce couple mère-fille. La fille est monstrueuse, elle a piégé sa mère. Elle l'a piégée à la sensibilité. David Halperin, professeur à l'Université du Michigan, travaille sur les sources de la subjectivité gay. Il a découvert à quel point les relations mère-fille marquent l'imaginaire homosexuel masculin, notamment en analysant le rôle récurrent dans les citations culturelles, sociales et privées d'un extrait d'un film de Curtis dans lequel l'actrice Joan Crawford joue une scène de rupture violente avec sa fille.
Ce film, oui, en particulier, c'est le film Mildred Pierce pour lequel Joan Crawford a gagné son Oscar unique, je crois, en 1945. Et oui, il s'agit d'une histoire d'une mère martyrisée par l'amour de sa fille aînée, ingrate, etc. Et qui, évidemment, c'est une histoire qui a un rapport un peu décalé avec la vie réelle de Joan Crawford, qui, elle, adopta deux enfants dont la fille a écrit une biographie de sa mère hallucinante, violente, dénonçant sa mère abusive, alcoolique, qui ressemble assez peu à la mère idéale martyrisée que jouait Joan Crawford dans son film clé. Il y a un moment dans le film où la fille aînée a réussi à extorquer de l'argent d'une famille très riche, parce qu'elle se dit enceinte par le fils. Et dans cette scène, elles arrivent, Joan Crawford et sa fille, toutes les deux, et elles rentrent chez eux après cette rencontre avec la famille riche. Et la fille explique à la mère qu'elle voulait l'argent précisément pour vouloir se casser, et quitter la maison, échapper à sa mère. Sa mère déchire le chèque. Et la fille donne une claque à sa mère qui tombe dans l'escalier et puis qui regagne ses pieds et puis qui dit à sa fille finalement « casse-toi avant que je ne te tue ».
Alors comment est-ce que vous expliquez, David Halperin, que cette histoire conflictuelle très violente entre mère et fille puisse être réappropriée par les gays américains?
Oui. Mais précisément, si on pouvait, si on imaginait la scène qui se jouerait de la même façon entre père et fils, on verrait qu'il s'agirait de quelque chose de bien différent. C'est-à-dire un moment où un père chasse le fils de sa maison, où le fils tente de tuer son père, ou qui donne une claque à son père, ces scènes-là nous rapporteraient au moment clé des grands récits magistraux de la culture occidentale. C'est-à-dire, ça ferait penser aux grands fresques de la Bible, soit aux grandes tragédies qui commencent avec l'Édipe de Sophocle et qui mènent nos jours, auxquels les gays ne font aucune partie. Tandis que les rapports, le conflit entre une mère et une fille ne peut arriver qu'au niveau du mélodrame. Il y a un côté performance dans le mélodrame, mais je crois qu'il y a une façon différente dans les gays voient le mélodrame parce que le regard du spectateur gay sur le mélodrame féminin a quelque chose forcément d'ironique. Et je crois que c'est ça en effet la clé de l'interprétation, c'est les gays je crois, la culture gay a façonné un rapport ironique, pas seulement au sérieux, mais aux choses les plus sérieuses dans la vie gay, c'est-à-dire sur l'amour. Pour avoir un regard sur l'amour qui soit à la fois désabusé mais non désenchanté, il faut un certain regard ironique là-dessus. Et c'est ça qui nous montre ces films, je crois. Être homosexuel et être disqualifié dès le début, alors on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas assumer son identité au pied de la lettre, parce que ça serait assumer une identité déjà homophobe. Alors qu'est-ce qu'on fait? On refaçonne le contexte culturel dans lequel on existe, et on fait de ça quelque chose de nouveau et de vivable, je dirais. Alors, ce qui m'intéresse dans cette scène, dans le film de John Crawford, c'est que le moment où le rapport mère-fille se casse, où la mère dit en effet que, bon, oui, je t'aime bien, je t'aime en effet éperdument, mais je ne vais plus être ta mère, ou je ne vais plus jouer le rôle de ta mère envers toi, c'est un moment où se voit figurer un rapport amoureux, où on se dit finalement que même si je t'aime à la folie, je vois que je ne suis plus dans un rapport sans option. Alors je crois que le moment où le rapport mère-fille qui est convenu comme censé être un rapport tout à fait involontaire, mais qui, dans ce moment clé de ce film, se casse, se déjoue, ça peut figurer des moments clés dans la vie sentimentale de tout le monde, et un moment plutôt qui apprend aux gens, et aux gays surtout, de ne pas prendre l'amour comme une fatalité.
Les chemins de la connaissance. Aujourd'hui, de la tragédie au mélodrame, avec Françoise Frontizi, helléniste, et David Halperin, professeur à l'Université du Michigan. Texte lu par Émilie Trazente et Anne Kress. Groupe de réalisation, Xavier Carrère, Jean-Marie Charon, Yann Lambré, Michel Mestre, Franck Lillin, Christine Goémé.